Et vous croyez que ça va changer quelque chose de foutre le bordel en Grèce et après essayer de le foutre en France et ailleurs d'une façon internationale? Vous feriez mieux de vous en prendre aux malfrats de la bourse américaine qui ont ruiné le monde entier, hein? Mais vous profitez, parce que vous êtes des salauds d'anarchistes, vous profitez pour accroître encore la merde, pour pouvoir régner en despote comme Staline l'a fait là-bas. Je ne vous félicite pas, je vous hais. Comprenez-vous? Pourtant, en principe, je suis pas une personne haineuse, mais vous, je vous hais, parce que vous voulez saboter un pays merveilleux comme est la France, et vous n'êtes que des fleurs du mal, et vous des suppôts de Satan. Oui, c'est un bien d'écouter votre émission. Combien on voit la face cachée, laide et bête de la France. Voilà. J'ai toujours dit, c'est une émission de réunion de cons de France. On ne peut pas être gâté avec la crise, mais avec votre connerie, certainement.
Bonjour, Marie-Paul de Villejuif. À l'instar de Madame Alliot-Marie, je suggérerais à Xavier Bertrand, ministre du Travail, qu'il simule une agression de fermeture d'usines et de ses conséquences dramatiques pour le personnel. Il pourrait placer à l'entrée des usines des fonctionnaires qui indiqueraient aux futurs licenciés la liste d'antidépressifs, des adresses du Secours Populaire, Resto du Cœur, et si ça se dégrade, l'adresse du DAL. Bien sûr, au cas où des fermetures d'usines arriveraient, on ne sait jamais. Au revoir.
Bonjour Daniel Mermet, parce que je pense que Dieu s'occupe de nouveau des affaires de ce monde. Cette année, je vais aller à la messe de minuit. Depuis que les boursicoteurs s'en prennent plein la gueule, je me dis que Dieu est revenu parmi nous. Vive la crise et le futur monde de fraternité que la jeunesse révoltée va peut-être nous construire. Maudits soient les exploiteurs, grosse bise à Arlette, c'était Jaco, gentil enfant d'Aubervilliers.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Et je viens d'entendre trêve des confiseurs. Vous rêvez pas, non? Pas de trêve pour les confiseurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent les couleuvres. Car les couleuvres ne sont pas une confiserie, que je sache. Au contraire, il faut démasquer ces gueules enfarinées qui viennent nous dire attention à la contamination de l'exemple grec. Ce n'est pas une contamination, c'est une réaction vigoureuse. Une réaction salutaire contre cette putréfaction néolibérale qui va nous pourrir jusqu'à l'os. Et pour ça, il faut être vigoureux comme les Grecs. Mieux, il faut faire exactement comme les habitants de Neuilly. Ces citoyens comprirent cette ole des visons naphtalinés et ils sont allés à la municipalité jeter dehors celui qui les a été imposé. Nous devrons prendre exemple d'eux au moins. Être dur comme un nœud. Et sortir ces néolibéraux. Quoi, trêve des confiseurs? Alexandre, je vous appelle de Tarbes.
Oui, bonjour Daniel. J'aimerais connaître quel est l'impact de la dette des Jeux Olympiques sur les difficultés financières que connaît la Grèce actuellement. Personne n'en parle de cette histoire-là. Merci.
Oui, bonsoir Daniel. J'apprends avec stupeur dans le numéro 3073 de Télérama que l'État grec a cédé à Pékin pour une durée de 35 ans la gestion du grand port d'Athènes. De leur côté, les armateurs grecs ont commandé ces dernières années plus de 400 cargos au chantier naval chinois. Ça ne va pas arranger sûrement la situation des jeunes qui manifestent aujourd'hui. La concurrence va être rude. Attention aux feuilles de vigne et à l'ouzo à la mélamine. Quelle tristesse. Vous étiez certainement au courant. Une fidèle auditrice, très attachée à la Grèce. Merci et bon courage à tous.
Oh oui, bonjour l'équipe et merci de toutes vos émissions. Je suis une fidèle. Je suis tellement émue d'entendre l'émission sur la Grèce parce que du temps où j'étais encore assez jeune, nous avons hébergé une jeune camarade qui venait de Grèce et où la police lui avait dit de revenir le lendemain chercher ses papiers. Elle était convoquée à un commissariat et les copains lui ont dit ils vont pas te donner tes papiers, ils vont te prendre toi alors fiche le camp, et c'est comme ça que nous l'avons hébergé à Paris dans les années 67. Je crois pas me tromper, puisqu'elle était là encore en 68. Après, elle est partie en Angleterre à s'occuper de faire les papiers d'identité à des camarades qui voulaient sortir. Voilà, c'est une Parisienne, Renée, une vieille Parisienne, qui se rappelle de tout ça, et je suis très ému d'entendre ce qui se passe. Il est très, très blessé même. Voilà, allez, bon courage à vous tous. À bientôt.
Bonjour à tous, voilà un renseignement généreux assez rigolo, mais il faut bien écouter parce qu'on ne comprend pas du premier coup. Il a fallu que je relise plusieurs fois la phrase. Ça vient de Politis, alors voilà. Le gouvernement va faire examiner par les députés un projet de loi permettant au gouvernement de limiter le temps dont disposent les députés pour examiner les projets de loi. Voilà. Alfred Jarry et Alphonse Allais doivent se retourner dans leur tombe de ne pas y avoir pensé. Et puis en même temps, quand on lit que Christian Kerr, le député rapporteur de la loi sur l'audiovisuel, vient de dire « Une fois que la loi sera votée, il faudra avoir une réflexion d'ensemble sur l'audiovisuel », eh bien, à mon avis, ils sont à l'endroit, ils sont retournés à l'endroit dans leur tombe. Alors si le gouvernement arrive à faire voter ça aux députés, il pourra faire voter aussi peut-être aux dindes de se prononcer pour leur avion de Noël, ou alors peut-être aussi à De Carolis de s'immoler par le feu en direct sur France 3 le 5 janvier, je sais pas moi. Passer les bornes, il n'y a plus de limite. Allez, salut à tous et bon joyeux Noël quand même.
Eh ben non, la trêve n'a toujours pas commencé dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, la trêve des confiseurs. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer non plus. Ah, je voudrais dire une petite chose à l'auditeur qui se demande quel est l'impact du coût des Jeux Olympiques sur l'économie grecque. Eh bien, précisément, je l'ignore, mais on nous dit et on nous répète qu'il faudra deux générations d'habitants de ce charmant pays pour rembourser le coût des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont en effet lourdement plombé l'économie grecque. Il faudrait effectivement faire un bilan plus précis, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan de l'urbanisme. C'est les constructions spéciales pour les Jeux Olympiques. Certaines ont été récupérées, réhabilitées, utilisées, mais beaucoup sont en friche. D'ailleurs, c'est pas le seul endroit au monde où les choses se passent ainsi après l'ébriété générale des Jeux Olympiques. Je pense par exemple à Montréal. On pourrait revenir sur ce thème-là un de ces jours. Mais aujourd'hui, eh bien, on va tuer le patron. Voilà, c'est une décision qu'on a prise, enfin, peut-être pas nous, là-bas, si j'y suis, mais qui nous semble être une excellente idée. C'est en tous les cas l'idée qui vient à l'esprit d'un certain nombre d'ouvrières d'une entreprise qui viennent d'être virées. Alors, plans sociaux, vous connaissez enfin ce scénario, cette histoire qui dure dans l'indifférence générale, la consternation, la tristesse, la compassion. Mais tout ça n'arrête pas cette destruction lente, rapide, plus selon les époques. Aujourd'hui, on a une accélération formidable de ces destructions d'emplois et de ces fermetures et autres plans sociaux que la crise justifie, explique. C'est au moins ce qu'on entend dans le discours officiel. Et donc, ces ouvrières décident de tuer leur patron. Évidemment, c'est pas en vrai, c'est dans un film, mais un film qui pourrait être vrai. Ça sort demain, le 24, le soir où il n'y a personne dans les salles de cinéma. Eh bien, c'est ce soir-là que la bande de Benoît Delépine et Gustave Kervern ont décidé de sortir leur film Louise Michel. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure avec eux et François Ruffin, qui les a accompagnés sur les lieux qui les ont inspirés pour ce film et avec les ouvrières qui les ont inspirés pour ce film. On va voir que ce film tape juste, très très juste, dans l'esprit de l'époque qui n'est plus au petit dialogue et au débat ou aux revendications plus ou moins timides qui n'ont reçu aucune espèce de d'écho, de réponse, et les humiliations accumulées avec le temps ont amené la situation actuelle, c'est-à-dire une situation explosive. Et d'une certaine façon, ce film, on va le voir à partir de ce soir, donc sur les écrans, enfin à partir de demain soir sur les écrans, eh bien, joue un rôle de celui que les artistes peuvent jouer, celui de révélateur sensible d'une époque. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, et merci Daniel Mermet d'exister. C'est un appel du collectif Tchétchénie d'Albi dans le Tarn, où le préfet expulse avant Noël, au début janvier, 4 familles tchétchènes qui demandaient l'asile politique. Leurs enfants, 4 ans, 3 ans et 6 mois, un bébé né à Albi. Il s'agit de garder en vie des jeunes gens et des enfants. Essayez d'être là devant la préfecture d'Albi le mercredi 24 décembre à 10h pour préserver un peu plus d'humanité à l'homme. Merci.
Au dernier conseil municipal de Corbeil-Essonne, nous avons interpellé notre sénateur-maire, Serge Dassault, pour protester contre la hausse des tarifs municipaux ainsi que la baisse des indemnités octroyées au personnel communal. Pour seule réponse, Serge Dassault nous a rétorqué « Arrêtez de pleurer sur le malheur des pauvres ». C'est pour en finir avec un tel mépris qu'à Corbeil-Essonne, l'association La Ville Ensemble et notre tête de liste, Bruno Perriou, lancent un appel pour collecter les 60 000 euros qui nous sont nécessaires pour financer la dernière campagne municipale que nous avons perdue de 170 voix, ainsi que le recours en annulation auprès du Conseil d'État, convaincu que nous sommes de l'irrégularité de cette élection. De nombreuses personnalités nationales, Marc Perron, Robert Guédiguian, Marcel Trias, Jean-Luc Mélenchon, Francis Wurt, Nicole Vorvaux, Charbes et des dizaines de personnalités locales ont déjà soutenu notre appel, notre combat pour la démocratie qui est aussi celui de chacun. Nous vous invitons donc à les rejoindre en envoyant vos dons à Philippe Gaudry, 15 rue de la Poudrerie à Corbeil-Essonne. Merci pour votre soutien, au revoir.
Oui, bonjour à tous. Alors, entre autres saloperies que j'entends ce matin au poste, c'est le président Lula du Brésil va dépenser 5 milliards, je crois, dans l'armement. Voilà. Et alors, je me suis souvenu d'une carte postale qui venait du Comité français pour la solidarité internationale, sur laquelle il y avait marqué « La faim est une arme de destruction massive ». Alors c'est un monsieur qui s'appelle Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, qui a déclaré ça au Palais des Nations à Genève le 30 janvier 2004. Alors on peut s'interroger, voilà un président qui est issu d'une mouvance progressiste, et puis qui a dans son pays des gens qui n'y mangent pas, voilà, qui crèvent de faim, des enfants qui n'ont pas d'école, mais il va quand même dépenser 5 milliards voilà, pour des armes, quoi. À bientôt.
Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'usine va fermer. On ne peut pas empêcher les mauvais angles de répandre leur fiel. Bon, certes, ne nous voilons pas la face, nous traversons en ce moment un passage un peu difficile. La conjoncture est mauvaise, un euro hélas trop fort, des commandes en berne, je comprends que vous ayez le moral dans les colons. Mais notre société, votre société, a toujours su affronter le vent mauvais. Alors bon, courbons une nouvelle fois les chines, laissons passer leur âge, hein, et puis surtout ne vous en faites pas. Vous avez surfusé les 35 heures, vous avez surfusé les augmentations de salaire, vous avez surfusé les tickets restaurants. Alors aujourd'hui, ne refusez pas le cadeau que l'entreprise vous fait. Fabienne. Eh oui, vous ne rêvez pas, ce sont bien des blouses neuves. Ces blouses sont, croyez-moi, le symbole du renouveau. Comble du chic, elles sont siglées à vos noms. Comme quoi, un grand groupe international, souvent trop décrié, peut aussi avoir de petites attentions. Alors, mes amis, désormais, ne cédez plus au misérabilisme ambiant. Battez-vous face au péril de la concurrence, montrez que vous êtes déterminés à lutter.
Alors, qui d'autre ici a déjà eu envie de tuer son patron?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, avec Gustave Kervern, avec Benoît Delépine et avec Louise Michel.
Flight number 2, arriving from New York.
déjà de revenir ici parce que si on est dans un lieu, une ancienne usine, c'est totalement vide, c'est d'une beauté absolue. N'importe qui aurait envie de faire de la photo en voyant ce qu'on voit en ce moment. Enfin, c'est cette espèce de d'architecture en scie sauteuse. Non.
Donc là, on se trouve au fin fond de la vallée de la Nièvre, à l'Étoile, à mi-chemin entre Amiens et Abbeville, au fond d'une cour d'une usine désaffectée où il y a un chien qui aboie à l'entrée. Comment ça se fait que vous avez atterri ici ?
Pour les besoins du scénario, on avait besoin de, à la fois d'une usine en pleine activité, à la fois d'une usine totalement vide. Et le problème, c'est que quand on appelle des vraies usines, les vrais patrons ont refusé parce que s'ils n'avaient pas délocalisé, ils étaient sur le point de le faire. Donc ils voulaient pas de mauvaise publicité par rapport à leur entreprise. Et là, justement, c'est une usine qui... était totalement vide, mais il y a une activité qui a repris.
Mais à part ça, il y a autre chose qui nous avait plu...
On ne croit pas en Dieu, mais on croit en notre étoile avec Gus. Donc un lieu qui s'appelle l'Étoile, dans une ancienne usine qui s'appelle Stella Europe, pour nous, ça nous a parlé tout de suite.
Et c'est la bonne étoile rouge, alors ?
Ah, peut-être aussi, ouais, bien sûr.
Mais non, on n'a pas dit que c'était bien de tuer le patron. Vous n'allez pas tous vous mettre à tuer votre patron à la veille de Noël. Attendez un peu. Mais il arrive que ce qui est illégal ne soit pas illégitime. Et ce scénario de départ, ce point de départ, reflète génialement l'époque. Vous vous souvenez de ces timides et polies revendications d'attaque, par exemple, qui réclamaient un petit 1% sur les transactions financières ? Mépris, aucune réponse, aucune réaction. Vous vous souvenez des gentils forums sociaux de Porto Alegre ? Vous vous souvenez de Seattle ? Mépris, aucun dialogue. Autisme, hautain, cynisme capitaliste. À toutes ces protestations, à tous ces mouvements, la réponse a été pas de réponse. À des quantités de mouvements sociaux, de revendications, de grandes mobilisations, de grèves, aucune réponse. Aucun dialogue, aucun débat. Sauf quelques rapports de force à la limite de la violence qui ont donné quelques résultats. Ça s'accumule avec le temps, tout ça. Ça s'accumule avec le temps. Et puis ça s'accélère quand on a une crise financière comme celle que nous avons, ce krach financier qui est au néolibéralisme ce que le mur de Berlin il y a 20 ans fut au stalinisme. Et regardez voir, regardez les réactions à ce qui se passe en Grèce, ce qui s'est passé aussi à Tarnac. Comment la classe moyenne, qu'on appelait autrefois la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie, comment cette classe moyenne ne rejette pas ces mouvements-là, et montre même une certaine complaisance, une compréhension pour le moins. Et ça, c'est un symptôme de l'état d'esprit actuel de cette classe moyenne, qui est aussi la classe média, bien sûr, c'est la même pensée, l'une nourrissant l'autre. Et j'ai sous les yeux la critique du journal Le Monde, du quotidien Le Monde, daté de mercredi, la critique de ce film de Louise Michel. Un très beau titre, La solution, tuer le patron, Yolande Moreau et Bouly Lanert dans une comédie loufoque aux échos très actuels. Et le papier, la chute du papier, dit que ce film fustige l'obscénité capitaliste et nous prédit, si rien ne change, pour reprendre le titre d'un essai dont on parle, l'insurrection qui vient. C'est quand même assez étonnant, ces revirements, ces retournements de veste. C'est intéressant, on assiste à ça, on vit ça ces jours-ci. Ce qui est constant, cependant, c'est que dans ces papiers, on va parler de Yolande Moreau, la génialissime Yolande Moreau, de Bouly Lanert, qui dans le film campe un personnage formidable de lâches ratés, etc. C'est, mais il y a l'apparition de Benoît Poulvorde, il y a Benoît Delépine, évidemment, qu'on adore, l'inventeur de Michael Kull, qui a dénoncé l'imposture du grand reporter baroudeur, et Gustave Kervern et toute l'équipe de Groland. Tout ça, c'est formidable et c'est très bien. Ce que c'est, ce papier que j'ai sous les yeux, et d'autres d'ailleurs que j'ai pu consulter, n'évoque absolument pas, c'est les ouvrières. Aïe, 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 les gars, la classe moyenne, c'est toujours pareil, vous les oubliez, les ouvriers, c'est les oubliés. Et pourtant, c'est eux, c'est elles qui donnent la matière, au moins, de ce film, et qui ont inspiré, c'est leur histoire qui a inspiré nos deux réalisateurs, Benoît Delépine et Gustave Kervern. Vous avez compris que c'est un film formidable qui sort, qui nous intéresse beaucoup. Les ouvrières sont oubliées dans la critique, elles sont pas oubliées dans la basse, si j'y suis. François Ruffin était là et veille au grain. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est La Basse, si j'y suis, avec Louise et Michel.
On est tous des gros tas de viande inutile. Tous on ressemble à un élevage de poulets aux hormones. On est bien partis pour tous finir chômeurs, et nos enfants ils seront comme nous, au plus gros. Le travail c'est en train de devenir un luxe réservé aux pays qui sont pas prêts d'avoir le RMI. Sauf que pour eux, on remplace leur salaire par un paquet de chips. Ben ouais, y'a plus une thune nulle part à cause du prix des 4x4. Le pognon, c'est une maladie mentale qui est en train de niquer toute la planète. Et nous, on nous fait croire que pour vivre pénard, y'a qu'à buter toutes les vaches folles. Et surtout les islamistes.
C'est dans cette usine. Alors, je raconte la scène du film. Les ouvrières arrivent un matin. La veille, elles sont encore en train de travailler sur des machines.
Il se passe ce qui s'est passé à côté de chez moi, à Angoulême, et ce qui a dû se passer peut-être partout en France. C'est-à-dire que le patron de l'usine fait une espèce de discours en exposant aux ouvrières le principe suivant: elles vont recevoir un nouveau vêtement de travail neuf, et donc ça les met en confiance, parce qu'elles se disent, elles ont peut-être des doutes sur l'avenir de leur entreprise, et le fait de recevoir des nouvelles blouses, ça les met plutôt dans un optimisme. Et sauf que cet optimisme là c'est vraiment quelque chose pour endormir leur méfiance. C'est-à-dire que quand elles reviennent le lendemain matin, il n'y a plus rien dans l'usine, il n'y a plus ni machine, ni patron, ni bureau, l'usine est totalement vide.
Et ça, c'est une anecdote qui s'est déroulée dans tout le
monde. Près d'Angoulême, la COFPA, ils ont offert des nouveaux vêtements de travail, et en un week-end, ils ont déménagé toutes les machines.
Eh ouais, banalisée, ces histoires depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans, on est habitué à ces destructions, fermetures, on encaisse, on la ferme, on se tait, une usine ferme, il y a eu des luttes, les syndicats essayent de se défendre, il y a des interventions plus ou moins lâches, plus ou moins efficaces, des pouvoirs publics. Et puis voilà, il y a une région meurt, parce que c'est jamais évidemment seulement les destructions d'emplois, une fermeture, c'est aussi des familles qui sont affectées, et puis c'est des bassins d'activité, d'économie, le bistrot du coin, enfin tout ce que vous savez. Tout ce que vous savez, et face à quoi, on est On est inerte. Depuis des années, on est inerte. On ne bouge pas, ou peu, le peu qu'on fait, eh bien, jusque-là, ça marche pas. Et on se dit, on a peut-être été trop poli, trop gentil. Peut-être qu'on s'est fait un petit peu avoir. Et là, eh ben, vous avez compris, le thème de ce film, c'est ces ouvrières qui refusent de se faire avoir avec François, enfin de se faire avoir, elles se sont fait avoir, mais elles veulent régler leur compte à leur façon. Et avec Gustave et Benoît Delépine, avec Gustave Kervernes, Benoît Delépine et François Ruffin, on revient sur les lieux du tournage, mais qui sont aussi les lieux d'un de ces crimes de fermeture et de délocalisation.
Ça va ? Ça va bien ?
Donc là, c'est en fait un hangar, là il y en a encore, avec des tonnes et des tonnes de vêtements. Alors il y en a, c'est pour l'Afrique, et il y en a, c'est pour l'Asie, ou bien comment ?
C'est-à-dire qu'ils fabriquent les vêtements là-bas, puis une fois qu'on les a portés, on leur renvoie les vêtements. C'est ça le principe du relais.
Nous, le problème, c'est que... C'est pour ça qu'elles ne veulent pas répondre. C'est-à-dire, comme tous les réalisateurs, on a couché avec toutes les actrices du film. C'est normal, quoi. Il y a un peu un mur du silence.
Là, je trie des blousons. Ceux qui sont en mauvais état, on les met à la brûle. Et il y a deux catégories. On a les blousons avec de la laine, qui représentent une catégorie. Et les blousons légers, et ben, on les met dans un autre chariot.
Sur votre table, vous avez un petit transistor pour écouter la radio en pliant les habits. Et puis derrière vous, vous avez un petit chauffage pour pas crever de froid, parce qu'il fait froid dans le hangar.
Oui, corassé. Mais enfin, nous, on n'est pas frileuses. J'ai travaillé du temps de Stella. Après, j'étais au chômage comme toutes les filles. J'ai travaillé en filature. Ça fermait, comme toutes les usines du coin. Et après, je suis allée travailler à Valeo, en intérimaire. Et comme j'avais fait mon quota d'heures, et ben, ça a été vraiment dur. Parce que bon, on perd tous nos points de repère, on voit plus personne. C'est triste. Hein. J'aime bien l'usine.
C'est d'être à côté de votre copine, là ?
Ben oui, parce qu'on blague bien avec Ginette. On dit des bonnes blagues.
Vous l'avez vu, le film, ou pas ?
Oui, oui. Ben, c'était bien, c'était marrant, c'était bien.
Les ouvrières, elles décident de se mettre ensemble et de se révolter et d'aller traquer les patrons.
C'est un peu gros.
Ça, vous, vous êtes pas pour ?
Oh non, non, quand même pas, non. Non, non. Oh non, quand même pas les patrons. Parce que bon, ben, le patron, s'il délocalise, c'est peut-être pas tout à fait de sa faute non plus. Parce que bon, ben nous, ça serait pareil. Si on était à la place du patron, peut-être qu'on en ferait autant.
Mais vous avez été en colère déjà après votre patron quand vous avez été licencié ?
Un peu quand même, oui. Mais en quelque sorte, j'ai quand même compris que bon, ben, il fallait quand même qu'il se sépare des ouvriers. Et si nous, on avait été à sa place, peut-être qu'on en aurait fait autant. Hein.
Mais dites donc, elle est pas mal, cette petite veste sur laquelle vous travaillez. C'est quoi comme taille ?
Ça, je ne sais pas, mais ça doit être une petite taille.
Ah zut, alors. Non, mais attendez, c'est carrément une veste de smoking dans mon rêve.
Ah
oui,
ça,
quand
c'est
même
une petite taille.
Et vous piquez les habits comme ça ?
Ah non, 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 non. On en voit trop, on est même blasé de voir les vêtements. Alors...
C'est bon, avec vous, votre mari fait des économies le samedi, vous n'allez pas faire les...
Ben, j'en ai tellement que... Bon, si, ça m'arrive encore d'en acheter sur les...
Vous avez tellement de mari ou...
Ah non, de vêtements. J'ai tout ce qu'il me faut.
En mari ou en vêtements, alors?
Non, en vêtements. Quoique des maris, s'il y en a, hein. Oh non.
Donc là, on passe dans la rue centrale de l'Étoile, avec sur la droite des jardins ouvriers, sur la gauche des corons, où il y a parfois un Père Noël qui pend aux fenêtres. Et on se dirige vers le café des sports.
Ce mot café des sports en blanc sur fond rouge, au bout d'une rue, la rue de la Besogne.
Ouais, et puis c'est surtout le café où il y a la scène importante du film où les ouvrières décident de mettre leurs indemnités de licenciement en commun pour qui faire une pizzeria, qui. Enfin, divers projets. Et en fait, donc c'est Yolande Moreau qui demande aux autres si elles sont d'accord pour mettre l'argent pour engager un tueur professionnel pour buter le patron. C'était une scène difficile parce que on avait choisi les bonnes ouvrières le jour même d'ailleurs sur une cinquantaine d'ouvrières. On avait fait le casting à la cantine en mangeant, donc On voit la patronne qui est sur le seuil.
Donc là, on rentre au Café des Sports.
Il y a France Inter qui va payer un coup, alors qu'est-ce que vous voulez voir?
Ouais, France Inter paye des coups, mais léger hein, quand même. Hein, voilà, faut pas... Voilà, là vous avez compris, on est au Café des Sports et on va projeter des extraits du film aux ouvrières qui se trouvent là pour voir quelles seront leurs réactions, ce qu'elles ont à dire là-dessus. On se dit, bon, c'est sympa cette idée, hein, on tue le patron. Bon, il y a une radicalité là, oula, il y a une radicalité, même si c'est un côté comique, burlesque, etc. C'est une métaphore avec toute la force de la métaphore. Bon, je dis bon, d'accord, c'est des idées un peu de bourgeois, ça, hein, les idées à l'action directe. Hein, voilà, on fait tout péter, on pousse jusqu'au bout, et on est, c'est nous les plus ultra, les ultras, les ultras. On va voir que, c'est aussi une idée qui a traversé l'esprit de ces ouvrières. Il y a celles qu'on vient d'entendre et qui disent, ben non, quand même, etc. Parce que bien sûr, on est, bien sûr. Mais on va voir que c'est une idée qui a traversé les esprits et qui fait son chemin, ce qui n'est pas du tout indifférent.
Baladés, on était repris, on n'était pas repris, etc. Donc on se demandait toujours si on n'allait pas trouver un matin l'usine vide comme ça. On se demandait toujours. Alors, ça n'avait pas passé tout à fait comme ça, mais bon, on a été licencié quand même au bout du compte. On est coupé, on n'a plus de jambes, enfin, on se demande ce qu'on va faire d'ailleurs.
Là, on voit à la fin de la scène l'ouvrière qui crie « Allez, salaud !» Vous, c'est ce que vous éprouviez aussi pendant ces années à International Shirt? Vous pensiez aller salaud dans votre tête?
Quand... Après, oui, un petit peu. Même beaucoup, peut-être.
Vous l'avez dit au patron que c'était un salaud?
Non. Non, quand même pas. Non. On pense quand même un petit peu, finalement.
On l'a carrément exprimé. Hein.
Il y a eu le photoshop, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le courrier Picard, au moment où tous les salariés partaient de Cosra, le jour du départ. Donc il y a eu une photo prise de l'employeur qui était en dessous de son arme en train de lire un bouquin.
C'est-à-dire que pendant que les ouvriers brûlaient des pneus pour protester devant l'usine, le patron était à 50 mètres de là et était en train de lire tranquillement dans son fauteuil.
Sous un arbre de Cosra, parce que Cosra, c'est magnifique, c'est un petit parc très sympathique. Et donc, à ce moment-là, il était en dessous de son arbre pendant que les salariés partaient.
Tout le monde était scandalisé.
Les personnes même qui n'avaient pas travaillé chez Cosra, quand ils ont vu cette photo, ils ont dit, mais c'est scandaleux. Et là, c'est ce qui est super. Ça nous a fait un peu de bien, parce qu'il faut savoir qu'on avait l'impression d'être seul hein, dans ces moments-là. Licenciement, aujourd'hui, c'est tellement devenu banal, hein, parce que ça ferme de partout. Et de voir cette photo, j'étais très contente, c'est d'avoir cette réaction au niveau des gens à l'extérieur, disant, mais il fallait lui casser la gueule, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça.
Nous, le propos de notre film, c'est vraiment une, comme cette photo, quoi. C'est un espèce de déclencheur, c'est-à-dire qu'on montre à la fois ce qui se passe réellement dans les usines aujourd'hui, et à la fois le cynisme de certaines personnes qui décident d'un trait de plume de virer ces gens-là. Enfin, il y a une espèce de cynisme, mais peut-être totalement inconscient de leur part, quoi. Enfin, je sais pas, ils sont dans une autre logique, il y a deux mondes complètement déconnectés, et on se rend plus compte des conséquences, quoi. Et nous, c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est, si on pouvait avoir ne serait-ce que le même impact que cette photo, ça serait génial, quoi.
Et comment ça s'est terminé alors, Cosra?
Les machines sont en attente de personnel. On a l'impression que les gens sont partis et qu'ils sont en vacances et qu'ils vont revenir comme ça du jour au lendemain.
La différence, c'est qu'ils sont numérotés. Voilà. Donc, ils sont prêts à partir. Voilà.
Donc, ils ont pris le carnet de commandes, le savoir-faire, enfin, tout.
Ils ont pris tout sauf les salariés, quoi.
En gros, c'est ça. Voilà.
Et là, vous savez ce que vous allez faire ensuite?
Pour l'instant, on n'est pas encore demandeur d'emploi. Hein. On attend notre lettre là du jour au lendemain, puisque c'est sur décision de l'inspection du travail. Et comme on lui a demandé que ce soit le plus tard possible, pour embêter notre direction.
Alors là, on va passer à une autre séquence où, pour embêter la direction, on choisit des moyens qui sont un peu moins modestes que simplement essayer de gagner quelques jours.
12,90. 2,60.
J'ai appelé le syndicat. Et ils ont dit qu'ils allaient envoyer un délégué. Et ils vont donner 100 euros d'indemnité par année.
Les fumiers
2000 euros pour se crever 20 ans au boulot.
2000 euros, ça fait combien en francs, Lola?
6 fois 2, 12. 7 fois 2, 14, ça fait 13 000.
C'est ridicule. On pourrait peut-être faire, c'est mettre l'argent ensemble.
Pourquoi faire?
Comme ça, on peut justement faire quelque chose. Mmh. Sinon, on est seul et ça mène nulle part.
Mmh. Mmh. Et 20 000 euros à 10. C'est une belle somme.
Donc, on va faire des propositions, on vote après. Mais avant ça, je voudrais être sûr que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord de mettre l'argent.
Je n'ouvrirai une pizzeria.
Notre idée.
On pourrait peut-être. Pourquoi pas un calendrier à poil. Non, je pense pas.
C'était juste une idée. C'est rigolo, mais. Je crois pas que ça marche.
Et dans l'immobilier, peut-être une idée, moi.
On t'écoute, Louise.
Parce qu'avec 20 000 euros, on pourrait faire buter le patron par un professionnel.
T'es folle.
Pas tant que ça.
On va le combler.
Pourquoi pas?
C'est une bonne idée. Où le trouvez-vous, le professionnel?
Je peux s'en charger, moi.
Et donc, vous, pendant qu'on projetait là, l'extrait où il décide d'assassiner le patron, vous disiez, on a tous des envies de meurtre.
On a tous eu la même pensée. Chaque salarié, dans n'importe quelle entreprise que ce soit, en pleine crise de licenciement, tout le monde l'a pensé.
Ouais, on discutait entre nous, on dit, il y a des blocages chez nous, on va le mettre au fond des blocages, on va le séquestrer, on va pour dire, mais arrêtez, réveillez-vous, Cossera, ça peut fonctionner encore.
On voulait l'enchaîner,
on avait tout préparé, enfin, pas tout préparé, mais avec des photos, c'était... c'est de la haine.
Ça en devient vraiment la manière réelle par moment. Ouais.
C'est de la haine qu'on ressent envers eux, quoi. Vraiment très. Et encore aujourd'hui. Donc.
On s'est fait des films, mais plein de films. On voulait l'attacher sur son lit, on était prêt à faire des tours de garde pour le garder et le séquestrer. Mais ça devenait vraiment irréaliste. Hein.
C'est la suite de Louise Michel, là, qui vous attend. Et alors pourquoi vous avez rien fait?
C'était le moment de la colère. C'est normal. On vient d'apprendre qu'on va fermer une entreprise, on va fermer une production. C'est le moment de la révolte, de la colère. Puis il y a un moment où la colère elle finit par retomber. Et là, on devient un peu plus réaliste.
Et vous, quand ils ont dit on a tous des envies de meurtre, vous avez approuvé?
Derrière, en arrière-pensée, oui, c'est vrai qu'on ne l'exprime pas, mais on pense quand même un petit peu. Finalement, on l'avait.
Au tricotage, ça s'est passé la même chose. Monsieur Méni, qui a une usine à Roiselle, de sacs à patates, il a fermé Flixecours. Et 2 mois avant, il avait acheté une maison au Touquet de 470 000 euros. Hein, au Touquet, c'est quand même pas mal. Et en même temps, il fermait à Flixecours. Il fermait à Flixecours. Les gens, ils ont occupé pendant presque un an.
Mais il y avait des envies de meurtre là-bas aussi?
D'une certaine façon, oui, hein. Tout en sachant que ça veut rien dire finalement, parce que les gens se retrouveront en tôle et puis c'est tout. Et c'est pas tellement grave de se retrouver en tôle. Hein. Bon, c'est tout, mais on voudrait quand même se rendre gorge. Hein.
Rendre gorge. Ça alors, ça a sans son. C'est l'expression française, on pense à la révolution là. Rendre gorge. Rendre gorge. Et. On dit, on est dans la fiction, on est dans l'humour noir. Mais on peut quand même s'interroger, qui sont les terroristes? Est-ce que c'est cette fiction qui évidemment est épouvantable de tuer un homme? Il faut pas le faire, ne le faites pas, c'est pas gentil. Mais
de quel côté le terrorisme. Parce qu'il y a des années, très très longtemps, on avait fait un reportage sur une histoire épouvantable qui était une ouvrière qui s'était suicidée, qui s'était pendue sur le lieu de son travail. Et on a vu des échos à cette époque-là d'auditeurs, d'auditrices, surtout d'auditrices d'ailleurs, qui disaient mais les conditions de travail, la fragilisation, l'insécurité, etc., expliquent ce suicide. Et qui a imposé cette terreur? Comment cette terreur-là, celle du pouvoir contre les ouvriers, qui l'a installée? De quel côté la terreur?
Et c'est comme si là, votre film, il réveillait finalement un inconscient, quelque chose qui était dans la tête de quelques salariés, puis que bon, bah, c'est pour jouer, c'est pour de rire, mais en même temps, on y pense un peu quand même.
On s'aperçoit en parlant avec tout le monde, c'est que les ouvriers, les ouvrières sont plus civilisés que les patrons, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent pas, ils ont envie de meurtre, mais ils vont pas le faire, alors que les patrons, eux, ne se posent pas de questions, parce qu'en fait, des licenciements, c'est quelque part des meurtres déguisés, parce que c'est 400 familles, 400 pères de famille qui peuvent tomber dans l'alcoolisme, qui peuvent se suicider, en tout cas qui vont peut-être se divorcer.
Moi, je préfère être dans la peau de gens qui ont des envies de meurtre et qui passent pas à l'acte, plutôt que d'être un patron qui licencie 400 personnes et qui finalement en tue 40, quoi. En tue réellement 40, quoi.
Quand on a fermé, nous, notre usine avec Marie-Thérèse, il y en a un des jumeaux Pruvot qui s'est suicidé. Je me rappelle, j'ai dit au patron, au directeur de l'usine, c'était pas notre patron, si vous licenciez son frère, vous aurez un deuxième suicide sur la conscience. Et il y en a qui sont morts d'alcoolisme, Jean-Bernard Rat, 6 mois après, il était mort. Hein. Bon, de sa machine au vestiaire, on appelait ça la route du Rhum, hein. Il buvait déjà quand même pas mal avant. Hein. Et puis en plus, il travaillait sur une machine qui coupait, avec des lames qui coupaient, on avait toujours peur qu'il tombe dans la machine, mais il tombait pas, il est jamais tombé. Hein. Et puis... quand il est parti, il est mort. 6 mois après, il était mort.
À peu près, oui.
Ouais, ouais.
Bah alors, qui d'autre ici a déjà eu envie de tuer son patron? Donc, là... Ah. Là, c'est la patronne qui a envie de tuer le patron, la patronne du Café des Sports, qui est en train de rendre la monnaie sur les cafés. C'est votre mari, alors?
Oui. C'est le père de mes enfants déjà. Après on verra bien. Non mais ça arrive, hein, on a le droit quand même. Ils ont bien voulu tuer leur patron. Moi aussi ça m'arrive de temps en temps.
Vous avez intérêt de la surveiller la nuit. Hein, parce qu'elle a envie de t'entendre tuer son patron. Vous le savez en plus.
Il y a un compromis financier même entre deux.
C'est-à-dire
que s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, bon, ça peut se répercuter sur...
Ah, voilà. Alors j'ai ce qu'il vous faut. Donc là, c'est Nana International. Hein. Là, c'est nous. Nana Incorporated. La maison mère à Bruxelles. Là, c'est le pool, le fonds de pension World Found à Jersey, avec l'adresse du siège.
Crève, charogne. Merde.
Tuer le patron, c'est une bonne idée, c'est une idée lumineuse, excellente idée, mais enfin, la mise en œuvre n'est pas facile, il faut trouver le tueur, et puis il faut trouver le patron. Et rien ne ressemble à un patron qu'un autre patron, et un quidam à un patron, c'est pas facile. Et c'est un peu tout le déroulement de ce film, qu'on dit loufoque, qu'on dit déjanté, qu'on dit anard, etc. Mais enfin, qui traite, on le voit, d'un sujet... profond et qui révèle, et c'est bien le rôle du cinéma là en l'occurrence, ce qui est ancré très profondément dans cette société. Aujourd'hui on n'est plus dans la fracture sociale, on est dans le gouffre, la colère, la rage et des lendemains qui risquent de chanter étrangement. Alors là on est à Jersey.
On a donné un faux scénario quand même au syndicat d'initiative de Jersey, puisque la fin était un peu détonnante. Donc, pour pas les effrayer. Donc...
Et à Jersey, je te dis, il n'y a que 2% sur les bénéfices, tu ne trouveras pas mieux. Sandwich, fais une sandwich d'accord, mais tu n'as pas intérêt à avoir un AVC là-bas. Moi, je suis à 1 heure d'Hélico de Londres, je commande tout sur Internet et il livre dans moins de 24 heures. Justement, voilà un coursier, je te rappelle. C'est pour quoi exactement?
Nana International, ça vous dit quelque chose?
Non.
Une usine en Picardie.
Une usine en Picardie. Ça fait au moins 2 ans qu'il n'y a plus d'usine en France.
Non, chef.
Bien.
Ce que montre le film, là, Benoît et Gustave, c'est comme s'il n'y avait que des responsabilités parcellaires, qu'on n'arrivait plus à retrouver le responsable ou le coupable. Résultat, dans un premier temps, on tue le patron direct, puis ensuite on dit le vrai patron, il est à Bruxelles, on se retrouve à Bruxelles. Ensuite, on dit, ben, en fait, ça appartient, je sais pas, à un fonds d'investissement qui se trouve à Jersey.
C'est comme... En tout cas, nos héros sont un peu donquichotesques, mais ils partent à l'assaut des moulins, et on ne sait jamais où sont situés réellement les responsables, donc ils remontent la filière, un peu comme des petits détectives, mais à leur niveau. Quoi. De se retrouver entre ici et Jersey où il y a effectivement des vrais embouteillages de Ferrari, c'est quand même étonnant. Quoi.
Parce que dans le Val-de-Nièvre, il y a peu d'embouteillages de ferraille.
Ouais, voilà, peu. On en a un peu vu. Hein, mais...
Il y a un nombre de concessionnaires automobiles impressionnant sur cette île, puisqu'il y a des détaxes fiscales, enfin je sais pas quoi. Bon. Il y a énormément de boîtes aux lettres, comme on a montré dans le film. Mais c'est très très discret. Hein. De toute façon, c'est comme des voleurs. Hein. Ça reste discret. Mais par contre, on a eu un accueil détestable. Les gens...
Un mauvais accueil des boîtes aux lettres, alors.
Ouais, un mauvais accueil des boîtes aux lettres. On n'avait qu'une envie, c'est de retourner à Saint-Malo pour vous dire dans quel état psychologique on était.
S'imaginer peut-être un enfer ici, un paradis là-bas, mais c'est carrément... C'est-à-dire, à aucun moment, en allant là-bas, on les a enviés. C'est-à-dire que tout cet argent qui est accumulé là-bas, s'il avait été correctement distribué, tout le monde serait bien, quoi. Sauf que là, il y a des gens qui sont pas totalement heureux d'un côté, mais ils sont pas non plus totalement heureux de l'autre, quoi. Ils sont tristes, c'est pour dire un simple exemple, mais qui est assez parlant. Là-bas, le milliardaire qui nous a reçus, mais gentiment, hein, quand même, dans sa maison, qui nous a même prêté ses voitures de luxe, etc. Il l'a fait pour une seule raison, c'était pour faire plaisir à sa fille qui avait 11 ans et qui peut tellement avoir tous les jouets du monde qu'en fait, il lui a offert un tournage de film, quoi. C'était pour lui faire plaisir pour son anniversaire. Et la petite fille, elle est arrivée, elle nous a regardé 3 minutes et puis elle est repartie, quoi. Mais c'est incroyable, enfin, c'était d'une tristesse, mais alors qu'ici, dans la rue, on n'arrêtait pas de se balader, d'entendre les gamins qui jouaient, ça rigolait, enfin, je sais pas, il y avait beaucoup plus de joie de vivre, bizarrement, ici que là-bas, quoi.
Bon, il y avait, il y avait 4 maisons, hein, quatre énormes maisons sur le terrain, et en fait, je le voyais se balader tout le temps avec des papiers toilettes, je crois que c'était sa vraie passion. Je pense qu'il y avait à peu près une quinzaine de chiottes dans toutes ces maisons. Et donc, il allait remplir il mettait le papier toilette comme dans les hôtels, c'est-à-dire qu'il, le bord en V, tu vois. Et ma vision, c'est ce mec qui se balade avec son papier toilette, qui remet du papier toilette. Je suis sûr qu'il devait même jeter du papier toilette pour en remettre du nouveau. Enfin, voilà.
Il y aurait un emploi de service à créer, là.
Écoute, c'est une sorte d'aide à la personne. Si jamais il perd tout à la bourse, je pense que son métier est tout trouvé.
Buy. Sell. Buy. Sell. Buy. 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 Sell. Buy. Sell. Sell. Buy. 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 Sell. Sell.
Là, tout le film consiste à essayer de tirer un lien entre les pauvres. Donc là, c'est en Picardie que ça se passe, c'est à l'étoile, c'est et de l'autre côté, de tirer un lien vers les riches, notamment le patron qui buy sell. Tout l'objectif du film, c'est d'essayer de tirer un trait entre les deux. Vers où va l'argent?
Ouais, c'est de reconnecter ces deux mondes séparés par un gouffre. Autrefois, une fracture, maintenant, je trouve un gouffre absolu.
Et quand vous venez dans le Val-de-Nièvre, est-ce que vous savez à quelle figure importante aujourd'hui on peut relier ce qui s'est passé dans le bal de Nièvre avec la liquidation de tout l'Empire Saint-Frère. À qui ça a profité?
Personne ne nous en a jamais parlé. Enfin, je sais
pas. Absolument pas.
Vous qui avez travaillé, qui êtes encore chez Kovsra pour une semaine sans doute, si je vous montre ça. Est-ce que vous avez fait le lien? Donc c'est sorti en 2005, hein. Pour le bonheur de sa fille, donc c'est la une de Paris Match. Pour le bonheur de sa fille, Bernard Arnault reçoit au château d'IQM, prince, star et baron de la finance. Donc il y avait Nicolas Sarkozy et puis tout ça qui sont allés au mariage. Il y avait une traîne de 140 mètres de long qui a été transportée dans des fourgons spéciaux parce que c'était difficile. Oui, est-ce que vous faites le lien entre cette une du journal Paris Match et ce qui se passe chez Kovsra?
Vous voyez pas du tout le lien?
Non.
Pardon?
Ne demande pas ça, j'attrape des boutons. C'est l'homme qui me dégoûte le plus au monde.
Vous savez pas qui c'est, Bernard Arnault? Vous avez travaillé chez Saint-Frère?
Oui. J'ai travaillé de 71 jusqu'en 82-83. J'étais mutée à fixe-cours chez Boussac Saint-Frère, puisque la rondelle s'est fermée. Puis après, Boussac Saint-Frère, fixe cours s'est fermé. On m'a remutée à Siège de France. À Siège de France, ça n'a pas été. J'étais couturière, je me faisais insulter. Enfin, on m'a fait voir de toutes les couleurs. J'ai fait de la dépression. J'ai été licenciée. Mon mari, après quelques mois, il a été licencié. On a perdu notre maison neuve. Puis après, c'était l'enfer. L'enfer.
Mais, et pourtant... C'est intéressant parce que justement, c'est tout le film, le propos du film, c'est d'essayer de tirer un lien qui apparaît inexistant entre la Picardie et Jersey. Et là, il existe bel et bien un lien entre votre parcours, Ginette, chez Parisot, Catherine Thierry, votre parcours dans l'après Saint-Frère, les gens qui se sont suicidés chez Saint-Frère, vous, ce qui se passe chez Kovsra, et cette une avec le mariage de la fille de Bernard Arnault, ou bien cette autre une où on voit politique et star milliardaire La Nouvelle Alliance avec la François Fillon aux côtés de Bernard Arnault en une de point de vue cette fois-ci.
J'avais vu ce journal... chez le dentiste ou probablement, hein, et c'est vrai que ça me donne des haut-le-cœurs. Ce mec-là, il me donne envie de vomir.
Ouais, et ça peut être la suite. Louise Michel 2 ou Louise Michel le retour, qui pourrait être l'histoire de la fortune de Bernard Arnault, qui, grâce au premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, a fait fortune, a trouvé l'origine de sa fortune dans cette région. On y reviendra, en tous les cas, avec François Ruffin. Vous pouvez lui faire confiance. Pour l'instant, on célèbre la sortie de ce film Louise Michel avec les réalisateurs et les femmes, les ouvrières qui ont inspiré, qui sont les actrices de ce film.
Sur la table, il y a un trophée qui est posé et c'est marqué 28e Festival International du Film d'Amiens, prix du public. C'est lourd.
Vous pouvez le mettre là-bas avec les coupes de football, quoi.
Là, vous laissez le prix du public.
D'Amiens, ici, ouais, ici
au café des sports,
voilà.
Et Corinne,
toutes ces coupes-là, c'est les coupes des petits gamins qui jouent au football à l'étoile. Ils nous ont mis ces toutes les coupes.
Non, mais au moins, on sait que le prix est là, quoi. Enfin, mais parce qu'on peut pas le partager en plein de morceaux, donc on sait qu'il est là. Ceux qui veulent le voir viennent le voir ici.
Sauf si le patron délocalise le café. Alors, si le patron délocalise le café
là,
en
ça,
Chine.
Là, ça serait trop triste. Hein. S'il n'y a plus le café des sports ici, là, c'est.
Je me demande quand ça sort.
Ben, ça sort le 24 décembre. Voilà. Le jour où il n'y a personne au cinéma.
Il a raté le bus.
Ça sort demain, vous avez compris. Le soir où il n'y a personne au cinéma. Le 24 décembre. Louise Michel, donc, c'était un reportage de François Ruffin. Merci à toutes et à tous. Merci à Marguerite, Fabienne, Patricia, Maïja, Nadia, Béatrice, Ginette, Marie-Thérèse, Catherine Thierry, Vincent Gambier, Benoît Delépine, Gustave Kerverne, la patronne et le patron du Café des Sports. Donc, Louise Michel, sur vos écrans à partir de demain. Et puis, le bouquin de François Ruffin aux éditions Fayard, La guerre des classes, qui évoque ce sujet. Et puis aussi le blog de François Ruffin, le blog populiste de François Ruffin qui s'intitule Y a de la joie et que vous pouvez retrouver sur le site de Bakchiche Info. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez faire vos commentaires, également sur là-bas.org, où vous pouvez écouter et réécouter ces émissions ainsi que quelques centaines de numéros de Là-bas si j'y suis, ce que vous pourrez faire pendant cette période de
repos et de distraction à la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Rémi Quincaise. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Agnès Lebot attend vos messages sur le répondeur de la base Sigisto au 01 56 40 37 37. À partir de demain, rediffusion des émissions de l'année, un best-of comme on dit, mais le répondeur reste ouvert, c'est-à-dire qu'on attend vos messages et chaque jour on diffusera vos messages en début d'heure et jusqu'au début janvier, donc les quelques meilleurs moments de là-bas si j'y suis. Réclame.
C'était pas encore le bon. Le vrai patron, c'est un fonds de pension en Floride.
Est-ce qu'on fait, on continue?
Bien sûr qu'on continue.
Moi j'ai peut-être une solution. J'ai un cousin serbe, il a fait la guerre, Srebrenica, tout ça.
Impeccable.